pas comme les autres. Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue, bon début de semaine. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Il fait beau, ce qui sera pas tellement le cas cette semaine. Bon, on nous promet peut-être du beau soleil, de la belle température pour vendredi, mais d'ici là, ça risque d'être assez gris. Bonjour Alex.
Salut Mario.
Petite surprise ce matin, à Québec et à Montréal, sur les ponts.
Ouais, la FIC, hein, qui a décidé, la Fédération interprofessionnelle de la santé, qui voulait lancer un signal de détresse au gouvernement Legault et qui sont allés bloquer le pont Jacques-Cartier. Hein, on a pris une page dans le livre d'Extinction Rébellion, peut-être, pour aller faire ce moyen de pression-là. Action simultanée qui devait avoir lieu également sur le pont de Québec. Donc, un coup d'éclat pour vouloir se faire entendre par la population, alors qu'ils réclament là, un débat public sur l'état des conditions de travail des professionnels en santé.
On va parler de ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va aller rejoindre Paul Larocque et 100% Nouvelles.
15h30, allons retrouver Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario.
Bonjour.
Au moment où on se parle, je sais pas si t'as un moniteur avec toi, donc oui. Marine One, l'hélicoptère du président des États-Unis d'Amérique là, qui s'oppose à Phoenix, Arizona. Donc, Mario, on va se le dire, là, Trump qui est quand même tout un campaigner qui se débat comme un diable dans l'eau bénite. Mario, j'en discutais avec John Parizella il y a un instant, je te pose la question à toi aussi. Est-ce qu'il y a encore dans ton esprit une possibilité que Trump refasse le coup de 2016 en faisant mentir les sondages et en surprenant tout le monde le 3 novembre?
Il y a toujours une possibilité. On est en 2020. Là. L'opinion publique bouge quand même plus vite. Je mets ça en parenthèse quand même parce que les sondeurs nous disent que le pourcentage de gens qui disent ne plus pouvoir changer d'idée est très élevé. Mais même des gens qui disent ne pas changer d'idée, je veux dire, les élections récentes ont prouvé qu'il y a des gens qui changent d'idée. Donc, est-ce que Donald Trump, moi je pense qu'il y a juste une façon pour lui, là, c'est vraiment d'essayer de semer le doute sur la candidature de Joe Biden. On a quand même peu parlé de Joe Biden depuis le début de la campagne. Là. Monsieur Biden a su être discret, pas faire d'erreur, faire juste le nécessaire. En fait, je dirais ne pas donner aux gens de raison de ne pas voter pour lui. Parce que Joe Biden n'a pas donné aux gens une foule de raisons de voter pour lui. Le calcul des démocrates, c'est que il y a une majorité d'Américains qui en ont assez du spectacle, certains diront du cirque de Donald Trump, et qui veulent changer. Alors, tant que tu leur donnes pas une raison de pas voter pour Joe Biden, ils vont le faire. Ils vont dire, bon, ben, on change, puis ça va être plus tranquille avec Joe Biden. Ceci dit, est-ce que dans le débat, M. Trump pourrait réussir à remettre Joe Biden sur des braises chaudes? Là, il va lancer des histoires de corruption avec son fils, etc. Il va tout mettre sur la table, là, Donald Trump. Et si Joe Biden montrait des signes de faiblesse importants, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à inquiéter les Américains de dire, ouais, veux-tu vraiment avoir lui comme président? Moi, je pense que la chance est très mince, mais est-ce que c'est encore possible? La réponse est oui.
Alors, ça garde le suspense, bien évidemment. Donc, est-ce que Biden pourra continuer à jouer la trappe, comme on dit au hockey, Mario? On a l'impression que c'est Jacques Lemaire, hein, qui fait le plan de campagne de Biden jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va tenir le coup?
Monsieur Biden, quand même, il joue la trappe, mais il a quand même pas fait d'erreur. Je veux dire, si c'est détracteurs, les gens qui ne croyaient pas en lui disaient c'est un gaffeur. Il reste que même s'il fait pas la grosse campagne, puis je veux dire, il reste qu'il donne des entrevues, il parle aux gens, hein, il répond à des questions. Il en fait assez qu'il aurait pu se mettre les pieds dans les plats jusqu'à maintenant. Mais il reste 2 semaines et 1 jour.
C'est pas fini tant que c'est pas fini. Donc, on voit là. Et Trump n'hésite pas une seconde à se servir de tout l'arsenal de la présidence américaine. T'as vu ça? Et, oui, il mène une campagne en train d'enfer, mais toujours à bord de Air Force One. L'avion se pose, et quand l'avion se pose, parfois, il est transporté en hélicoptère. Et écoute, c'est un décor. C'est toute l'institution et la puissance
c'est spécial,
de l'institution américaine. Ouais, c'est ça. Et c'est pas comptabilisé dans ses dépenses à lui, mais en tout cas, c'est un, disons-le, un très, très habile homme politique en campagne électorale, en tout cas. Mario, j'aimerais qu'on revienne chez nous, parce que ce matin, c'est quand même pas rien. C'est passé quelque chose chez nous. Certains diront c'est un fait divers, mais au fond, et derrière tout ça, se cache quand même quelque chose. Les infirmières, Mario, qui ont décidé, le syndicat des infirmières, la fédération, là, de bloquer, tu sais, t'étais en direct, un des accès au pont Jacques-Cartier à Montréal. Elles ont bloqué carrément le pont de Québec également. Mario, est-ce qu'elles ont dépassé les bornes? Est-ce que c'est une bonne idée pour elles, avec le capital de sympathie qu'elles ont, de poser des gestes comme ceux-là qui ont un impact là, sur des gens peut-être sympathiques a priori et qui n'ont rien à voir avec leur pourparler comme tel.
Bon, on n'était pas à l'heure de pointe, puis il n'y a plus beaucoup de trafic ces temps-ci avec la COVID. Fait que d'un point de vue, c'est moins pire. Mais pour les gens qui étaient pris là, évidemment, c'est moins pire parce qu'il y a moins de monde. Mais pour les gens qui étaient pris là, c'est tout aussi désagréable. J'ai beaucoup de... D'abord, évidemment, il y a une sympathie des infirmières. Par contre, le gouvernement nous dit que les négociations vont bien à la table des négociations. La présidente de la FIC nous dit le contraire. C'est certain que sur le plan de la négociation, Paul, on est pris dans un problème avec ce que j'appellerais la géométrie de la négociation. Parce que normalement, on veut régler l'ensemble. Par exemple, mettons, on a tout le secteur public. On veut régler l'ensemble. Et Paul, tu en as suivi des négociations. Quand il y a un groupe... un syndicat particulier ou une profession en particulier, à qui on dit, là, cette fois-ci, il va falloir leur en donner plus, faire une entente à part. On les fait passer après. On signe avec les autres, puis on leur dit à eux, restez dans le vestibule, restez tranquille, parce que comme on veut vous donner plus, on va vous signer après. Tu comprends? Parce que ceux à qui tu veux donner plus, tu veux pas les passer avant, parce que là, ensuite, tous les autres vont se baser sur cet exemple-là, puis ça va créer une surenchère. Mais là, à cause de la pandémie, à cause de la négociation du secteur public avec les autres syndiqués qui semblent pas vraiment avancés, il y a urgence avec les infirmières. Alors là, c'est comme si ceux à qui tu voudrais en donner un peu plus... ils tiennent à passer avant dans la négociation, puis tu voudrais le régler avec elle parce que tu as besoin de t'aurais besoin d'une bonne entente avec les infirmières pour le réseau de la santé. Ça c'est une complication là, de passer en premier dans la négociation celle à qui tu donnerais plus. Est-ce que ça retarde la négociation? Peut-être un peu. Bon, pour ce qui est de bloquer un pont, moi je suis jamais tellement sympathique à ça, mais moi je dois dire, Paul, que c'est toujours un grand questionnement, là, hein, les moyens de pression dans le secteur public, parce que tout le discours qui vient avec, là, j'écoutais, puis à chaque fois, là, on parle contre le gouvernement, puis là, tu sais, on parle de l'employeur, mais c'est nous autres, là, tu comprends? L'employeur qui paye, là, c'est nous tous les contribuables. Quand un syndicat du secteur privé décrit sa compagnie, qui hurle après sa compagnie en disant « Ah, ils font des milliards de profits », là, tu dis « OK, c'est une business, puis la business fait des milliards de profits, fait que si les employés vont s'en chercher un petit peu plus, l'entreprise fait un peu moins de profits. » Mais là, évidemment, tous les syndicats du secteur public qui crient, qui font plus de grèves, plus de moyens de pression, qui bloquent plus de ponts que tous les syndicats du secteur privé additionnés, ben, à chaque fois, là, le public, là, c'est après nous autres qui crient, là. Ils crient contre nous autres, qu'on paye pas assez d'impôts, pas assez de taxes. Fait que c'est légitime de demander ça, mais en même temps, il faut qu'ils se souviennent de ça aussi, là. Ils crient pas après le gouvernement, ils crient pas après François Legault. Ils crient après moi, ils crient après toi, ils crient après tout le monde qui en veut le plus. Puis c'est sûr que la patience du public, si on compare les années 70 aux années 2020, là, la patience du public puis la sympathie du public en général envers ces moyens de pression du secteur public, elle s'est effilochée. Pas mal. Même pour les syndicats d'infirmières.
Tu sais, puis Mario, en pleine pandémie, en plus, parce que, disons-le, la mèche s'est raccourcie considérablement. Je parle de la patience également. Allons voir comment, Mario, André Ducharme a suivi ça pour nous, pendant ton émission, d'ailleurs. André, comment réagissaient les infirmières? On les a entendues, on va les entendre. Mais les gens qui ont été pris au piège dans le trafic, heureusement, ça n'a pas été trop long, là, mais n'empêche, plusieurs ont dû revoir leur plat. Comment ces gens-là réagissent?
Écoutez, Paul et Mario, c'est intéressant, c'est curieux aussi parce qu'effectivement, à Montréal, le pont Jacques-Cartier, direction Rive-Sud, a été bloqué environ une demi-heure en tout. Et à Québec, le pont de Québec, lui, a été bloqué environ une heure. Et des deux côtés, la plupart des automobilistes, d'abord, ne savaient pas pourquoi ils avaient été arrêtés si longtemps. Et quand on leur disait que c'était les infirmières qui manifestaient pour de meilleures conditions de travail, ben la très, très grande majorité, en fait, tous les gens qui en ont parlé, sauf un à Québec, semblaient plutôt sympathiques. Je vous invite à écouter ces commentaires.
Ben, écoutez, on va faire le détour, là. C'est pas plus grave que ça.
Moi, je les supporte à 100%.
Ben oui, les infirmières, ils font tellement de bon travail que...
C'est la seule façon qu'ils sont capables de se faire écouter. Tant mieux.
C'est pas un moyen. Il me semble qu'entre deux personnes, on est capable de se parler.
C'est intéressant, Mario. Donc, si t'es Action Rébellion, bloque pas les ponts, les infirmières, tu gruges peut-être ton capital de sympathie, mais bon, t'as de la sympathie en banque et c'est un peu ça là, ce qu'on entend.
il y a une sympathie réelle envers les infirmières. Et soit dit en passant, du point de vue du public, il y a aussi un intérêt. Tout le monde, même Christian Dubé, dit qu'il faut régler le problème d'organisation du travail. Je pense qu'au gouvernement, ils sont tout à fait conscients que l'épuisement qui a été vécu, le temps supplémentaire obligatoire qui a fait faire de l'épuisement professionnel, des démissions, des gens qui ont quitté la profession. En fait, ils ont encore leur diplôme d'infirmière pour encore pratiquer, mais ont quitté le réseau public, ils veulent plus travailler dedans. Je veux dire, le problème, il est bien réel. Je pense qu'il est bien identifié par le gouvernement. La question, c'est est-ce que vraiment, aux tables de négociation, le gouvernement est de mauvaise foi? Puis on ne sait pas, on ne sait jamais ce qui se passe aux tables.
À suivre donc au cours des prochains jours, sans doute. Bon, Mario, j'avais Yann Lafrenière en entrevue tout à l'heure. Tout un début de mandat, tout un baptême du feu là, pour un nouveau ministre. Remarque, il a vu neiger préalablement, mais bon, on a vu ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Écosse, où là, ça barde là, entre les pêcheurs de homards blancs et les Micmacs là-bas. Là, écoute, il y a eu un incendie criminel, et puis la GRC qui envoie des renforts, mm-hmm. et le gouvernement fédéral qui blâme d'ailleurs la police. Mais Mario, on va le dire. Moi, je suis de l'Abitibi, toi, tu viens du bas du fleuve. La chasse à l'orignal, ce qui s'est passé dans le parc La Vérendrye, autour du parc La Vérendrye, on l'a échappé belle, là, parce qu'on parle de moyens de pression qui ont eu un impact immédiat et direct sur des chasseurs, entre autres choses. Heureusement, la bonne nouvelle, la chasse à l'orignal est officiellement terminée, les gens sortent du bois. On aurait évité un affrontement ou une confrontation ou un incident grave. Mais Mario, le fond du problème reste là. Là.
Oui. C'est une situation qui va devoir être réglée. Je pense que c'est quelque chose, effectivement, la chasse, la saison, là, par les dates étant terminée, ça calme l'affaire pour l'immédiat. Mais là, le ministre a quelques mois devant lui pour calmer tout ça. Est-ce qu'on dit que dans d'autres territoires du Québec, on est arrivé à des plans de gestion paritaires, là, où les Premières Nations, avec la CEPAC, avec les gens de la région, on gère le territoire, on gère les ressources, puis on s'entend là, sur le cheptel. Puis dans ce cas-ci, il y a vraiment, comme les Algonquins disent, il y a une baisse là, du nombre du cheptel d'Origno, ils s'en inquiètent, mais le gouvernement avait réagi, le ministère de la Faune a coupé de moitié le nombre de permis. Là, donc, il y avait coupé de moitié le nombre de permis, donc pour protéger la ressource, la régénération de l'espèce. Donc, bon, est-ce que c'était plus une frustration des Premières Nations qui ne considèrent pas qu'on était assez consultés dans le processus? J'ai l'impression que c'est plus ça, mais oui, tu as raison de dire que c'était explosif. Là. Tout le monde se promène avec une carabine dans la camionnette. C'est le genre de situation où, à un moment donné, là, quelqu'un d'impatient ou qui a pris une bière de trop, un chasseur, puis là, à un moment donné, on vient choquer, puis on a fait de la longue route, puis, tu sais, tout le monde a un fusil dans les mains. C'est le genre de situation que tu veux éviter, là, tu sais, qui est des fois une folie de rage de quelques minutes, puis fait poser des gestes irréparables. Donc, tu veux pas ça, ce genre d'affrontement-là, avec des gens qui ont tous des armes. Il n'y a rien arrivé, tant mieux, mais on a quand même, dans ce cas-ci, on a laissé traîner ça toute la saison de la chasse.
Alors, avant de se laisser, on va alléger un peu le propos, parce que bon, on aime se détendre, on aime rire, Mario. Revoyons un petit extrait de la grande émission phare de l'humour aux États-Unis, Saturday Night Live, qui s'est payé la tête
Bonjour
des Québécois et des Montréalais.
Bonjour, hi, the French-Canadian morning news show live from Montreal. Montreal, the best parts of Canada and the worst parts of France. My name is Jean-Laurence or John Larry. And as always, I'm joined by my beautiful co-host, Anne-Marie.
Hey, bonjour, Jean.
Bonjour, hi. Now we do the banter. How was your weekend?
Bon.
Alors, écoute, Mario, tu sais, faut quand même, il se paye la tête. Au moins, on mérite ça. Là, Saturday Night Live, c'est une institution. Mais,
c'est pas
à quelques reprises.
C'est pas à se rouler à terre. Là.
Moi, je ne suis pas trouvé. Hein?
C'est pas à se rouler à terre. Là, c'est au mieux tu souris un peu. Puis j'essaie de voir, mettons, l'Américain moyen, l'Américain de Chicago qui est assis samedi soir, puis il regarde ça. À moins qu'il soit venu souvent au Québec, puis qu'il y a des amis québécois, de la famille au Québec, puis qu'il y a une opinion sur le Québec. Je me dis, l'Américain moyen, il a entendu parler de ça, là, que ça parle français à Montréal, mais pas sûr qu'il est plié en deux. Je sais pas comment l'inspiration leur est venue, parce qu'il n'y a rien eu dans l'actualité, puis il n'y a rien dans le sketch. Tu penses toujours qu'il va avoir un punch, ça va atterrir à quelque chose de vraiment drôle. Puis finalement, ben c'est ça. On parle français ici, puis on vit un peu dans les deux langues. C'est ça. C'est tout.
C'est supposé être drôle.
Ouais.
Allez, Mario.
Salut.